métal. Est-ce que le lamictal est un timon régulateur? Bon. Donc, il y a un réel problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'est un timon régulateur. Bon, alors donc je vais commencer déjà par essayer de définir ce qu'est un timon régulateur. À savoir que les premières définitions des timons régulateurs, c'était des médicaments qui pouvaient agir sur l'une des phases de la maladie, la dépression ou l'excitation. Ça, c'était les toutes premières définitions, mais qui sont devenues obsolètes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on peut traiter un état dépressif qu'on est timon régulateur. Ce n'est pas parce qu'on peut traiter un état d'excitation maniaque qu'on est timon régulateur. L'exemple typique, c'est que l'aldol, qui va traiter un état d'excitation, ne va pas être timon régulateur, mais il traite l'état d'excitation. Donc cette première définition, on l'oublie, elle est très mauvaise. La deuxième définition, elle est intéressante parce qu'elle prend en considération le fait que c'est un médicament qui va agir sur une phase sans aggraver l'autre phase. Donc ça, c'est déjà une définition qui est plus intéressante. À savoir qu'on va avoir des médicaments qui vont être capables de traiter une excitation maniaque sans risquer de provoquer une dépression. Donc je vais donner l'exemple, par exemple, le Dépakote ou le Zyprexa, qui tous les deux peuvent traiter un état, je dirais, d'excitation, mais qui ne vont pas provoquer de dépression. Donc cette définition pourrait être considérée comme une définition de premier niveau. Hein, vous avez votre premier niveau de timon régulateur, qui sont des médicaments qui vont réguler ou qui vont traiter, je dirais, qui vont traiter une phase sans risquer d'aggraver son contraire. Donc là, c'est clair jusqu'à maintenant. Bon. On pourrait avoir un deuxième niveau. Hein, c'est-à-dire que ce sont des médicaments qui vont être capables de prévenir une phase sans risquer de provoquer la phase contraire. Donc c'est là, on n'est plus dans la dimension curative, mais on est dans la dimension préventive. Je donne l'exemple du lamictal. Le lamictal aujourd'hui est un médicament qu'on positionne comme un produit qui prévient les récidives dépressive. Bon. Ce médicament qui prévient les récidives dépressives ne présente pas de risque de provoquer un état d'excitation maniaque. Il n'a pas d'effet sur les états d'excitation maniaque, mais en protégeant contre la dépression, eh bien, il va donc maintenir, je dirais, le cap, mais sans risquer donc un virage de l'humeur. À la différence, si on prescrit par exemple un antidépresseur au long cours, eh bien, on va avoir un effet protecteur contre les récidives dépressives, mais on n'aura aucun effet protecteur contre les états d'excitation et on aura le risque d'un virage de l'humeur. Vous me suivez là, hein ? Donc on a un deuxième niveau. Et puis, je dirais qu'on a un troisième niveau qui est the best one. Donc c'est la gold medication, c'est-à-dire que c'est le gold standard, comme on dit, eh bien, c'est un médicament qui va agir sur toutes les phases de la maladie, qui va agir comme un traitement curatif de la manie, comme traitement curatif de l'excitation, comme traitement préventif de la manie et comme traitement préventif de l'excitation. Le seul médicament aujourd'hui qui peut revendiquer ce niveau 3, hein, c'est le lithium. C'est le lithium, c'est le seul. Et malheureusement, le lithium aujourd'hui, eh bien, il est discrédité. Il est discrédité parce que c'est un produit qui est difficile à manier, c'est un produit qui peut provoquer des effets indésirables, en particulier au niveau thyroïdien, qui peut provoquer des perturbations au niveau de la fonction rénale, en particulier il induit ce qu'on appelle des syndromes polyuropolydipsiques, c'est-à-dire qu'il a tendance à faire uriner et faire boire beaucoup. Donc ce médicament, il a été un petit peu oublié. Et il ne représente aujourd'hui que 5% des initiations de traitement en milieu hospitalier. Ce qui est incompréhensible, alors que dans tous les textes de recommandation, et qu'aux États-Unis en particulier, on insiste beaucoup sur l'intérêt de ce médicament. On insiste d'autant plus que le lithium a un effet antisuicide et qu'on n'a pas mis en évidence toutes les autres propriétés du lithium. Il y a un article récent qui paraissait, qui montrait que le lithium agissait sur les systèmes immunologiques et que les gens qui étaient sous lithium faisaient moins de grippe, avaient moins de rhume que les gens qui n'étaient pas sous lithium. Donc tout ça pour dire que ce métal dont vous parlez, qui est un métal, c'est vrai que c'est un métal, eh bien, il a des fonctions qui sont assez extraordinaires. Et au début, au milieu du 19e, Garrod avait mis en évidence son effet sur la goutte. Bon. Ensuite, il y a eu les frères Lange qui ont mis en évidence un effet préventif sur les récidives dépressives. Et ça, c'était à la fin du 19e siècle. Et au milieu du 20e siècle, donc il y a eu d'autres propriétés qui ont été découvertes. On a vu qu'il avait un effet stimulant sur les lignées sanguines. Et donc il a été utilisé par des chimiothérapeutes en cancérologie pour stimuler la moelle et augmenter le nombre de globules blancs. Ça, c'est une donnée qui est importante. Et donc il a été utilisé donc pour certains de ces effets indésirables, de même qu'il a été utilisé par certains endocrinologues pour traiter des hyperthyroïdies. Bon. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est cette propriété, donc je dirais régulatrice vraie sur l'humeur. Et donc il y a une étude récente qui a été effectuée par Boer, Marc Boer, qui est le même Marc Boer qui a écrit un ouvrage avec Linda McBride sur les thérapies de groupe des patients bipolaires en insistant sur la réalisation d'objectifs personnels. Il y avait quelqu'un sur le forum qui demandait si on avait entendu parler de Boer et McBride. En fait, il s'agit de Marc Boer, B-A-U-E-R, et Linda McBride, qui est une infirmière. Et ils ont donc édité un livre, tous les deux, qui est publié et qui a été traduit en France dans la collection Médecine et Hygiène. Donc, ce Boer en question a fait une très très belle étude. Il a repris 500 articles consacrés aux thymorégulateurs. 500 articles, et là, il a sélectionné dans ces 500 articles des articles où il y avait, je dirais, un niveau de preuve élevé, qui était très politiquement correct au plan scientifique, c'est-à-dire qu'il y avait des populations relativement suffisantes et c'était des études contrôlées. Et donc, à partir de cette étude, il a montré que ce médicament, le seul médicament thymorégulateur qui sortait, vrai, qui agissait sur les différentes parties, c'était le lithium. Et les autres, eh bien, ils avaient une action intermédiaire. C'est vrai qu'ils n'aggravaient pas les différentes pathologies, mais que le lamictal se positionnait comme un thymorégulateur qui agissait par le bas, donc sur les récidives dépressives, et que les autres agissaient vers le haut, que ce soit le tégrétol, le dépakote ou encore le zyprexa. Troisième dimension, alors on pourrait dire le quatrième niveau de définition du thymorégulateur, mais là on est dans la science-fiction et on n'est plus dans la réalité. Mais là, on peut imaginer qu'un jour il y aura un quatrième thymorégulateur ou un autre thymorégulateur qui aurait une action très particulière. Parce que aujourd'hui on parle de bipolaire. On parle de bipolaire et on parle de bipolaire pourquoi ? On parle de bipolaire parce qu'on fait référence, je dirais, aux deux pôles de la maladie, à savoir l'excitation et la dépression. Bon. Et comme ça, vous avez différentes classifications du bipolaire. Vous avez des bipolaires 1 qui montent très haut, et puis vous avez des bipolaires 2 qui descendent très bas et qui ne montent pas très haut, très, très, très schématiquement. Et puis vous avez des cyclothymiques qui sont des formes plutôt atténuées. Bon, et vous avez d'autres sous-catégories qu'on va oublier. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans les troubles maniaco-dépressifs, il n'y a pas que l'humeur. Il n'y a pas que l'humeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la tristesse et l'euphorie. Il y a d'autres manifestations sur lesquelles les thymorégulateurs n'ont pas d'effet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certains auteurs qui, et que je rejoins, qui évoquent même le terme de troubles multipolaires. Trouble multipolaire parce qu'on se retrouve face à des pathologies qui, bien sûr, évolue vers le haut, vers le bas, mais en avant, en arrière, sur les côtés. C'est-à-dire que ces pathologies, que ce soit la dépression ou l'excitation, elles se caractérisent par une euphorie pathologique, elles se caractérisent par une tristesse profonde, une douleur morale, mais il y a à côté de ça des troubles du comportement, il y a parfois un délire, il y a des troubles du fonctionnement intellectuel, et que les médicaments qu'on a à notre disposition et qui sont considérés comme thymorégulateurs de niveau 1, 2 et 3, eh bien, ne vont pas avoir d'effet sur les autres dimensions de la maladie. Ils ne vont pas avoir d'effet sur les troubles du comportement, ils ne vont pas avoir d'effet sur la participation délirante, ils ne vont pas avoir d'effet, sauf lorsque la pathologie est traitée. C'est sûr que vous avez des études qui montrent que le Dépakote, que le Zyprexa, permet de faire disparaître complètement les idées délirantes. Mais elles les font disparaître pas par une action spécifique sur les idées délirantes, mais parce qu'il y a une action globale sur la pathologie, et lorsque le sujet est devenu stable, il n'y a plus cette pathologie associée. Mais on n'a pas à notre disposition aujourd'hui de médicaments qui puissent agir sur ces différents aspects. Alors, cette vision, elle est, je vous dis, on est dans un peu dans la science-fiction, mais cette vision est très intéressante parce que elle montre bien que le trouble bipolaire n'est pas un trouble qui se définit uniquement par une fluctuation d'humeur, par une phase dépressive ou une phase d'excitation, mais par aussi d'autres troubles qu'il faut prendre en considération, et que la pensée du déprimé, elle est profondément altérée. La pensée du maniaque, elle est profondément aussi altérée. Elles ne vont pas être altérées de la même manière, et qu'il y a plein de mystères encore qui persistent. C'est-à-dire que comment expliquer le fait que le matin on soit si mal et le soir on soit un peu mieux? Comment expliquer le fait que tout d'un coup il y a ce switch, c'est-à-dire cette inversion à 4 heures du matin, par exemple, qu'on peut. Donc c'est un grand point d'interrogation, de même que ces autres aspects du trouble, eh bien, ils sont pas très bien étudiés, ils sont mal précisés. Cette notion d'hypersensorialité, par exemple, que Jean-Alain a plusieurs fois mentionné dans son livre, eh bien, elle est intéressante, cette notion, mais il y a très peu d'études, il y a très peu d'études qui ont été effectuées au niveau cérébral pour voir qu'est-ce qui se passait et comment expliquer le fait que un maniaque voit plus rouge que quelqu'un qui n'est pas maniaque. Quand j'y vois qu'il voit plus rouge, il voit le rouge plus rouge. Hein, et qu'il va entendre différemment les choses, et que ses papilles gustatives vont réagir différemment, et que, comme Jean-Alain, il va savourer l'essence sans plomb alors qu'il aura un profond rejet pour l'essence avec plomb. Donc tout ça pour dire que on se retrouve face à un certain nombre de mystères. Alors, donc dans la pratique, c'est d'emblée, dans la mesure du possible, de donner un thymorégulateur. Alors ce thymorégulateur, il faut le choisir. Il faut le choisir. Et comment choisir notre thymorégulateur par rapport à un certain nombre de produits qui sont actuellement commercialisés? Il est certain que... Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Excusez-moi. Donc, comment le choisir? Est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de dire, bah tiens, on va le mettre sous lithium, on va plutôt le mettre sous Zyprexa, on va le mettre sous l'amygdale, on va le mettre sous des pacotes, on va le mettre sous Tegretol, on va le mettre sous des pamides, qui sont les principaux thymorégulateurs, en sachant que le Neurontin, qui avait été perçu comme un médicament qui pouvait éventuellement avoir un effet protecteur, est dans les choux, puisqu'il est passé à la trappe, dans la mesure où le laboratoire considérait que il n'avait aucune propriété thymorégulatrice. Alors, ça dépend énormément de choses, et c'est vrai qu'on va traiter, lorsqu'on est amené à voir le patient, on va traiter simultanément, et le plus souvent inconsciemment, c'est multiples paramètres. Hein. On va faire une analyse multifactorielle à notre insu, mais en fait, cette analyse, elle va se référer à des expériences antérieures, et on sait qu'il y a certains patients, par exemple, qui vont mieux répondre au lithium, d'autres qui répondront mieux au Zyprexa ou au Dépakote, d'autres qui répondront mieux au Lamictal. Je fais juste un petit retour en arrière, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'essentiel. C'est que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que parmi ces différents immunorégulateurs que je vous ai décrits, le meilleur de tous, bon, on va dire que le lithium est le gold standard, mais le meilleur de tous, c'est quand même l'association de plusieurs thymorégulateurs. Et c'est en associant plusieurs thymorégulateurs qu'on arrive véritablement à bien régulariser l'humeur. Et ça, je reviendrai un petit peu sur ce point de détail. Alors, donc, comment choisir ? Eh bien, d'abord, le choix, il est certain que lorsque vous avez quelqu'un qui est en pleine phase d'excitation maniaque, la communication, elle est difficile, c'est difficile de discuter avec lui, c'est difficile de créer une alliance thérapeutique, c'est difficile de l'informer, c'est difficile aussi de lui demander son avis, parce que si on lui dit, bah écoutez, voilà, on a plusieurs possibilités, donc il y a le lithium, alors vous voyez, le lithium, c'est un médicament qui peut provoquer telle chose, vous risquez un petit peu de prendre du poids, peut-être d'avoir des petits boutons, mais à côté de ça, il faudra quand même surveiller la thyroïde, il va nous arrêter brutalement, et le contact va quand même être très très difficile. Et donc le choix impossible. Donc, je dirais que dans un premier temps, très souvent, on est amené à prescrire sans qu'il y ait véritablement d'alliance et à l'insu du patient. C'est-à-dire qu'on l'informe, mais cette information, même si on est obligé de la faire, de la diffuser, elle n'a pas beaucoup d'efficacité. En revanche, je pense que quand le patient commence à aller mieux, qu'on va pouvoir véritablement mettre en place une stratégie thérapeutique. Alors, cette stratégie thérapeutique, donc, c'est le traitement thymorégulateur. Alors, ce traitement thymorégulateur, on va le choisir d'abord en fonction du type de trouble bipolaire. Parce que vous avez, et là on le voit, quand vous avez par exemple des familles où il y a des antécédents familiaux de troubles maniaco-dépressifs, donc je dirais que ce sont des formes assez pures, avec déjà dans la famille des personnes qui sont sous lithium et qui ont bien répondu au lithium, on peut se dire, il est logique que je le mette sous lithium parce que le père ou le grand-père a été traité par les sels de lithium. Et cette position, eh bien, je me souviens que Louis Bertagna, en 1980, à un congrès de Marseille, qui était sous la présidence de M. Sutter, avait déjà évoqué cette possibilité. Hein, c'est-à-dire qu'il avait déjà mentionné qu'il était logique de prescrire un thymorégulateur chez des enfants, lorsque le même thymorégulateur avait été efficace chez les parents. Et ça, c'était, je dirais qu'il était très très en avant de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que il y a probablement des facteurs génétiques. On sait qu'il y a des gènes, qui jouent un rôle dans la réponse au traitement. C'est-à-dire que il y aura des personnes ici dans la salle qui ne vont pas répondre à tel traitement pour des raisons qui sont génétiques. On l'a déjà évoqué, on a parlé par exemple de la tuberculose. Eh bien, la tuberculose, vous avez des personnes qui, ici dans la salle, ne seront pas sensibles de la même manière aux germes, mais ne seront pas sensibles aussi de la même manière au traitement. Hein, ça, c'est quand même des données qui sont intéressantes. Et donc, déjà, de s'enquérir de la nature du trouble et de se dire, mais mon père, il était sous lithium, il a bien répondu sous lithium, bien, il sera logique. Et alors là, vous avez des psychiatres qui vont vous dire, ou des psychanalystes qui vont vous dire, mais vous ne vous rendez pas compte, vous donnez le même traitement que vous allez donner à votre père, ce n'est pas possible, parce que symboliquement parlant, ça va le perturber, et puis tout. Enfin, le patient. Non, je crois que le problème, c'est d'être efficace, c'est que là, on prescrit un traitement qui s'est montré efficace, et on va lui prescrire le même traitement. L'autre élément qui va nous guider, c'est la nature du trouble. C'est-à-dire que vous avez des formes maniaco-dépressives qui sont des formes, je dirais, des formes typiques. Quand je dis typique, c'est que vous faites un premier épisode d'excitation maniaque, vous faites ensuite un épisode dépressif, puis après il y a un intervalle libre, puis un nouvel épisode d'excitation maniaque, un nouvel épisode dépressif, un intervalle libre. Hein, c'est ce qu'on appelle les formes MDI, manie, dépression, intervalle libre. Et bien là, le lithium est efficace dans ces formes-là. Bon, il est efficace dans ces formes. En revanche, il sera moins efficace dans les formes qui commencent par un épisode dépressif. Alors ceci pour plein de raisons. Hein, moi, je vous en livrerai une. C'est que beaucoup de ces formes qui commencent par un épisode dépressif ne sont pas des formes si pures que cela. C'est-à-dire que c'est là où je vais rejoindre Pad, c'est que l'antidépresseur qui a été prescrit au cours de cette première phase dépressive a provoqué un virage de l'humeur et donc un état d'excitation. Et donc là, on se retrouve dans des formes qui ont été peut-être pharmacologiquement induites. Même s'il existe une prédisposition, ces formes étaient peut-être pharmacologiquement induites. Donc, avec une moins bonne réponse au traitement par les sels de lithium. Et puis, il y a d'autres formes assez particulières qui sont les formes circulaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forme circulaire ? Ben, ce sont des formes rémitantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forme rémitante ? Eh bien, ce sont des formes où il n'y a pas d'intervalle libre. Le sujet est soit en phase dépressive, soit en phase d'excitation. Hein, c'est en permanence. La forme, elle est circulaire. Alors là encore, ces formes, elles répondent pas très bien aux sels de lithium. Et parfois, elles s'aggravent. C'est-à-dire que là encore, je vais rejoindre PAD, c'est que la prescription d'antidépresseurs, et plus particulièrement de tricycliques, va favoriser l'accélération des cycles. Et la forme circulaire, elle va se transformer très rapidement en cycle rapide. C'est-à-dire que à la place de faire deux épisodes par an, vous faites un épisode dépressif et un épisode maniaque. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous lui donnez un antidépresseur en pleine dépression, ça le fait virer. Vous lui donnez un neuroleptique, ça le fait descendre. Et on se retrouve très rapidement avec une accélération des cycles. Et ces cycles rapides représentent quand même, à peu près, hein, c'est des chiffres qui sont donnés, 20% des troubles bipolaires. 20%. Donc c'est là où on se dit qu'il y a des stratégies quand même à adopter. Troisième cas de figure, les évolutions indéterminées. Vous faites un premier épisode d'excitation maniaque, plus rien. Plus rien pendant 3 ans, 4 ans, vous n'avez même pas reçu de sel de lithium. Et puis vous refaites un deuxième épisode d'excitation maniaque à l'occasion d'un événement stressant ou spontané. Eh bien, vous donnez un traitement et à ce moment-là, ce traitement sera préférentiellement le lithium parce qu'on sait que dans les évolutions indéterminées, le lithium est quand même plus efficace. Bon. Et puis vous avez des formes, on n'en a pas parlé encore, mais vous avez des formes qui sont en rapport avec une pathologie, en rapport avec une autre pathologie, des formes où il existe une pathologie neurologique, par exemple, et qui est à l'origine, par exemple, de ce trouble maniaco-dépressif. Moi, j'ai le cas d'une personne qui après un accident de la voie publique, et qui était indemne d'antécédent, donc elle a eu un traumatisme crânien, elle a été dans le coma quelques jours, et elle a déclenché une maladie maniaco-dépressive. Et bien là, quand il y a une pathologie neurologique associée, ou lorsqu'il y a un substrat, je dirais, organique, le lithium ne va pas être très efficace. Bon. Donc, on a aussi d'autres formes particulières, qui sont les états mixtes. Alors les états mixtes, on en a parlé un petit peu la dernière fois. Les états mixtes peuvent se présenter de différentes manières. Vous avez ce qu'on appelle des dépressions mixtes, vous avez des manies dysphoriques et vous avez des états mixtes. Alors, par définition, la manie est très souvent dysphorique. C'est-à-dire qu'au cours d'une manie, vous avez très très souvent des fluctuations et vous passez des rires aux larmes. Mais la manie dysphorique, qu'est-ce que c'est ? C'est un état quand même de mal-être. C'est un état de mal-être et qui est plus prononcé dans l'état mixte encore, où il y a une intrication d'éléments dépressifs et d'éléments d'excitation. Bon. Et la dépression mixte, c'est une prédominance dépressive avec des éléments d'agitation. Bon. Alors, là encore, il y a des stratégies très particulières, parce que le lithium, il a peu d'efficacité dans les états mixtes, mais il a quand même son utilité le plus souvent en association avec d'autres médicaments. Et donc là, on va privilégier d'autres produits, et en particulier le Dépakote et le Zyprexa. La dépression mixte, elle est très très particulière parce que ça a été identifié depuis peu de temps. Donc ce sont des personnes qui sont dépressives, qui sont déprimées. Et cette dépression, elle est particulière parce que en général, le matin, ils sont relativement en forme et puis le soir, ils s'éteignent complètement. Il y a une irritabilité, une susceptibilité, une humeur quand même qui est triste, mais une tension, une fébrilité le matin. Et c'est sûr que là, la prescription d'antidépresseurs, pourtant on se retrouve face à des états dépressifs, si on prescrit seul des antidépresseurs, on peut les aggraver. Donc là, là encore, je rejoins Parad concernant, je dirais, le choix des antidépresseurs et le fait que ces antidépresseurs, ils doivent être prescrits, pas avec modération, mais je dirais qu'il faut bien peser l'indication d'un traitement antidépresseur. Donc, on s'aperçoit qu'avec le lithium, on va avoir certaines catégories de patients qui vont bien répondre. Vous avez un deuxième thymorégulateur. Alors, le lithium, lui, il agit sur tout. Hein. Il agit sur donc, la prévention des récidives maniaques et dépressives. Mais la prévention des récidives dépressives, ce n'est pas extraordinaire non plus. La prévention des manies, c'est quand même meilleur. Mais le lithium pose des problèmes. Le lithium pose des problèmes parce que c'est un traitement à prendre sur du long terme, parce qu'il faut éduquer le patient, parce qu'il y a des interactions médicamenteuses. Donc il y a véritablement une nécessité de donner le maximum d'informations au patient qui est sous lithium, concernant tous les risques possibles, que ce soit l'intoxication, que ce soit le problème des interactions médicamenteuses avec les anti-inflammatoires, avec les inhibiteurs d'enzymes de conversion, avec les diurétiques, donc les antihypertenseurs. Donc vous avez un certain nombre d'inconvénients. Il n'empêche que ça reste quand même le produit de référence. Mais il y a des gens qui, du fait de leur niveau intellectuel, de leur mauvaise observance, mauvaise compliance, eh bien, ça ne servira à rien de leur donner. Donc on va choisir un produit qui sera plus facile à manier. Alors, dans les produits qui sont plus faciles à manier, le dernier né, c'est le Zyprexa. Le Zyprexa, il a une indication officielle dans le traitement curatif des états d'excitation maniaque et il a aussi un effet préventif sur les récidives maniaques et dépressives. C'est-à-dire qu'il y a une diminution du nombre de récidives maniaques et dépressives. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du Zyprexa? On peut dire beaucoup de bien. Bon, beaucoup de bien dans la mesure où c'est un produit qui est facile à manier, qui est efficace, il y a un confort de vie, il n'y a pas de risque dépressogène, c'est un médicament qui ne va pas provoquer d'état dépressif chez quelqu'un qui est en phase d'excitation maniaque, il ne va pas provoquer donc de syndrome extrapyramidaux, et en plus, il a un effet, je dirais, assez tranquillisant, il calme. Bon. Il a un inconvénient, et cet inconvénient, je dirais qu'il a été très, très sous-évalué par l'industrie pharmaceutique, et depuis plusieurs années, on insiste auprès des laboratoires pour qu'ils mettent en place certaines mesures de protection contre un problème qui est celui du poids. Et il y a des études qui ont été montrées, publiées par les laboratoires Lilly, et qui montraient que la prise de poids elle était de 3 kg en moyenne. Bon. Ce qui est archi-faux dans notre pratique, parce que lorsqu'on prescrit du Zyprexa à quelqu'un, eh bien, très souvent, c'est 10 kilos, 15 kilos, parfois on a 20 kilos de prix assez rapidement. Ça, c'est une réalité, c'est un réel problème. Alors, on joue la carte de la transparence ici, c'est-à-dire qu'on donne les informations. À un moment, j'avais été accusé par certains collègues d'avoir des liens très très étroits avec Lilly. Ce qui est faux, on est totalement indépendant. Pour pouvoir, je dirais, donner une information, il faut être complètement dans l'indépendance. Aujourd'hui, je reste toujours sur ma position en disant que le Zyprexa est un produit qui est remarquable, mais qui pose un énorme problème, qui est celui du poids. Et là, quand on analyse la littérature aujourd'hui, eh bien, on a de plus en plus de données concernant des problèmes de diabète sous Zyprexa, alors qu'on m'avait posé la question l'année dernière, j'avais dit non, mais je n'avais pas l'information. Donc il y a des problèmes de diabète sous Zyprexa, il y a des problèmes de pancréatite qui ont été déclenchés par ces perturbations, je dirais, de glucidiques, et puis des problèmes surtout d'hypercholestérolémie et d'élévation des triglycérides. Donc lorsqu'on a quelqu'un qui est sous Zyprexa, eh bien, on doit surveiller ses triglycérides, on doit surveiller sa glycémie, parce que c'est un problème, je dirais, et des personnes qui peuvent être, par exemple, à risque, qui peuvent avoir des dyslipidémies familiales, eh bien, il faut les contrôler de près, en particulier quand elles ont pris du poids. Mais je dirais que la première chose à faire, c'est la glycémie. Hein, surveiller la glycémie pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce que je ne veux pas alarmer. Je ne veux pas alarmer, mais c'est une réalité. Je ne sais pas quelle est la fréquence, parce qu'on n'a pas de données sur la fréquence, parce que c'est des articles qui sortent les uns après les autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un autre médicament qui vient de sortir, qui s'appelle l'Abilify, et qui a obtenu enfin son AMM en France, donc on peut l'avoir. Donc c'est l'aripiprazole, hein, qui est commercialisé sous le nom d'Abilify, A-B-I-L-I-F-Y. Eh bien, ce médicament a une indication qui est le traitement de la schizophrénie. Il n'a pas d'indication dans le traitement des états d'excitation maniaque, mais il y a des études qui ont été publiées aux États-Unis qui montrent qu'il est efficace dans le traitement des états d'excitation maniaque. Donc on peut se dire qu'il y a d'un côté le Zyprexa, et puis d'un autre côté, il y a un autre médicament qui pointe son nez, qui s'appelle l'aripiprazole. Et puis très bientôt, vous allez avoir la ziprasidone, qui est un autre produit qui est à peu près similaire à celui de l'aripiprazole, qui devrait être commercialisé prochainement en France. Et puis vous avez un quatrième produit qui s'appelle la quétiapine, qui est un médicament qui, lui aussi, a un effet dans les états d'excitation maniaque et aurait, d'après les publications, un effet antidépresseur. Hein, c'est le seul antipsychotique vrai qui aurait peut-être un effet un antidépresseur, avec un peu le Zyprexa. Donc tout ça pour dire que le Zyprexa reste un produit de référence. Moi, je sais que c'est un produit qui a complètement transformé la vie d'un certain nombre de patients et ça a permis d'éviter des hospitalisations. L'inconvénient du Zyprexa, c'est la prise de poids. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on est amené à prescrire du Zyprexa, il faut vraiment insister sur des règles d'hygiène, d'hygiène alimentaire, donc d'être très très vigilant par rapport à une prise de poids qui peut être très, très rapide et on peut prendre 10 kilos quand même très très facilement. J'avais encore un patient ce soir qui était sous la double association lithium-Zyprexa. Depuis qu'il est sous Zyprexa, il a pris 10 kilos. Donc c'est un problème, mais ça reste un médicament de référence. Le seul problème, c'est que tous les médicaments ont des effets positifs et des effets indésirables, et il faut les mettre en balance. Troisième produit, donc, qui est le Dépakote. Donc Dépakote, lui aussi, c'est un produit qui est assez intéressant, qui était issu du Dépamide, puisque le Dépamide va se transformer en un produit qui est très proche du Dépakote. Donc le Dépamide, c'est un vieux médicament, hein, c'est Lambert qui a travaillé sur ce produit. Et le Dépakote, eh bien, il a une action curative sur les états d'excitation maniaque. On n'a pas de données sur les effets préventifs. Il y a eu une petite étude qui montrait qu'il pourrait avoir un effet sur les récidives dépressives, mais on a très peu de données. Il y a une grande étude qui a été publiée il y a 3 ans, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que cette étude faisait apparaître qu'il n'y avait pas de différence sur du long terme entre Dépakote, lithium et placebo. Bon, sur du long terme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'effet préventif. Alors c'est vrai que c'est des études qui sont un petit peu inquiétantes, parce que ça remet un peu en question tous nos schémas de fonctionnement. Surtout lorsqu'on voit les études, par exemple, qui avaient été effectuées par Mogenshu et Bastrup à la fin des années 60, enfin de 1960, oui. Eh bien, où il y avait vraiment là une disparition complètement des récidives. Eh bien, c'est vrai que le Dépakote va plus se positionner comme le médicament curatif des états d'excitation maniaque. Alors, cela dit, on l'associe au lithium, on peut l'associer aux Zyprexa. Et il peut renforcer, je dirais, la prévention des récidives maniaques. C'est-à-dire que chez certains patients qui continuent, malgré le lithium, à présenter des récidives d'excitation maniaque, je crois qu'il y a tout lieu d'associer le Dépakote, qui va, je dirais, entraîner peut-être une petite prise de poids, mais qui sera quand même plus modérée par rapport à celle du Zyprexa. Et donc, on aura quand même cette protection. Alors, qu'est-ce que fait le Dépakote? Qu'est-ce qu'il a comme effet négatif? Eh bien, il faut surveiller essentiellement la fonction au niveau du foie et la fonction pancréatique, parce qu'on a décrit des pancréatites, mais les cas sont tout à fait exceptionnels. Alors, le quatrième, c'est le Tegretol. Le Tegretol, c'est un médicament maintenant qui est un vieux médicament, qui est petit à petit remplacé par l'oxcarbazépine, qui est le trileptal, qui est comme du tégretol, mais qui n'aura pas certains effets indésirables, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir d'effet inducteur enzymatique. Vous savez que le tégretol, c'est un médicament qui diminue l'efficacité de tous les autres médicaments. Par exemple, ici, je suppose qu'il y a des femmes qui sont en âge de procréer et qui sont maniaco-dépressives et qui sont sous tégretol. Eh bien, le tégretol va risquer d'avoir des effets tératogènes, c'est-à-dire donc provoquer des malformations chez le fœtus. Et donc, la meilleure protection, c'est d'avoir une contraception. Or, la pilule va avoir une efficacité beaucoup moindre lorsque le tégretol va être prescrit, parce que le tégretol va stimuler, va provoquer la destruction de la pilule dans l'organisme, va accélérer la destruction de cette pilule dans l'organisme. On parle donc de stimulation, en quelque sorte. Il y a un facteur donc d'induction. On parle d'induction enzymatique. Et donc, ce produit va faciliter la dégradation d'autres médicaments. Alors, pour la pilule, ça peut avoir des conséquences gravissimes. Ça peut avoir aussi d'autres conséquences gravissimes pour des médicaments, par exemple, comme les anticoagulants. Des personnes qui sont sous anticoagulants et qui sont sous tégretol, eh bien, il y a nécessité de réajuster le traitement anticoagulant parce que ce traitement anticoagulant ne le sera plus sous tégretol. Je fais une toute petite parenthèse parce que c'est une donnée qui n'est pas très connue, mais le Prozac, qui est un médicament largement prescrit, lui va avoir l'effet opposé sur les anticoagulants. Le tégretol, lui, donc, va diminuer l'effet des anticoagulants et le Prozac va augmenter l'effet des anticoagulants. Donc c'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui a eu une embolie qui est sous anticoagulant, pourra risquer de faire un accident hémorragique si on associe un médicament, par exemple, comme la fluoxétine, qui va modifier donc, et augmenter, je dirais, le pouvoir des anticoagulants en bloquant la dégradation de l'anticoagulant, l'effet inverse donc du tégretol. On en arrive au Lamictal. Alors, le Lamictal, c'est un médicament dont on parle beaucoup, c'est un médicament qui, je vous le disais, est commercialisé dans 17 pays d'Europe avec l'indication officielle traitement préventif des troubles dépressifs dans les troubles bipolaires, qui est indiqué officiellement aux États-Unis comme traitement préventif aussi des troubles maniaco-dépressifs. Donc il n'y a pas de distinction troubles dépressifs et troubles maniaques. L'intérêt du Lamictal, c'est quoi? Le Lamictal est un médicament donc, qui va agir, je dirais spécifiquement, sur la dimension la plus difficile à traiter de la maladie bipolaire, qui est la dépression. C'est-à-dire que la dépression bipolaire est quelque chose qui est très difficile à contrôler. Pourquoi? Ce que dit très souvent Parad, c'est bien sûr par le fait que si on donne des antidépresseurs sans surveillance, sans contrôle, sans peser l'indication, on risque de favoriser un virage de l'humeur. C'est pour ça que dans les textes de recommandation, il est bien mentionné, on évite de prescrire trop longtemps, on évite d'abord de prescrire, donc on préfère associer deux thymorégulateurs. Et puis quand on est obligé de prescrire un antidépresseur, parce que ça nous arrive d'être obligé de prescrire, on ne peut pas laisser quelqu'un qui est déprimé sans traitement, eh bien c'est sûr que la durée du traitement sera beaucoup plus limitée dans le temps. À la place d'être de 6 mois, elle sera de 6 semaines en moyenne. Donc, quel est l'intérêt du Lamictal? Eh bien, le Lamictal est un médicament qui va permettre de prévenir les récidives dépressives. Alors, bien sûr, son efficacité, ce n'est pas 100%. Il y a des patients qui vont résister, qui ne vont pas être améliorés. On n'a pas beaucoup de données sur les doses, mais la dose moyenne, c'est plutôt 200 mg.